Assemblée Générale de la FNAIM Grand Paris sur Radio Immo.
Eh bien bonjour à toutes et à tous et bonsoir plutôt, et avec un ciel clément, un très beau temps pour une Assemblée Générale de la fin de l'année 2024, année avant les vacances, avant l'été. Bonjour Olivier Principal.
Bonjour Sylvain, bonjour à toute l'équipe.
Président de la FNAIM du Grand Paris, merci à toutes et à tous. Vous êtes accompagné, alors on ne pouvait pas rêver mieux, de tout le bureau exécutif de la Fédération au niveau national, d'ailleurs accompagné du président Loïc Quentin. Bonsoir Loïc Quentin.
Bonsoir Sylvain.
Merci d'être avec nous. Tout le monde est avec vous sur le BE. Alors vous allez nous présenter toute votre équipe. On va vous écouter. On va commencer par notre ami William.
Ah, on commence par William. Généralement, moi je voulais commencer avec le président adjoint.
Vous avez raison.
Jérôme de Champsavin, président adjoint de la Fédération. Alors ensuite, notre grand argentier.
Don Salustre,
Vincent Poitevin, membre du bureau exécutif. William Sixic, qui est coprésident de la Chambre du 06, accompagné de Cyril Messica, également coprésident. Ils sont toujours tous les deux.
Hein. Je les vois, mais c'est depuis que je vous connais, je vous ai toujours vu tous les deux. Hein. C'est tic et tac. Il y en a certains qui diront que c'est Bernard et Bianca, mais bon, c'est pas
Olivier ça. Principal, qui est membre du bureau exécutif, et également, on a la présence deux administrateurs, donc la plus belle administratrice.
Elodie Mire.
La plus belle administratrice présente, puisque les autres sont très belles aussi.
Oui, c'est sympa, absolument. C'est sympa pour les autres. C'est ce que je voulais dire. Et également Sébastien Benec, administrateur de Toulouse.
Alors, ça nous fait du bien, Olivier Principal, d'avoir un peu de légèreté dans une période un peu compliquée, parce qu'on ne peut pas ne pas éluder l'actualité, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut retirer de cette Assemblée Générale que vous avez menée avec dans un endroit particulier, plutôt symbolique, avec un très joli jardin, une soirée ce soir assez festive, l'occasion aussi pour la profession de se rencontrer.
Moi, je crois que c'est surtout le moment de montrer encore une fois que quelle que soit la difficulté, les forces de la FNAIM, c'est la résilience, c'est l'envie de faire bouger les choses, de ne pas se rester enfermé sur soi-même et d'évoluer avec ses confrères. C'est un message que j'ai envoyé devant l'Assemblée Générale aussi, cette volonté nécessaire de travailler ensemble, de réussir ensemble et de combattre ensemble. Et je crois que la chance que j'ai d'avoir tout ce monde-là autour de nous, c'est la preuve que la FNAIM est toujours unie pour faire front commun, être dans la résilience et avancer.
Alors l'unité, c'est quelque chose qui sonne particulièrement en ce moment, hein, on peut le dire, puisque plus que jamais notre pays a besoin d'unité, justement. C'est à vous que je vais poser la question, Loïc Quentin. Depuis à peu près maintenant, pratiquement 24 mois, on est sur une industrie qui est extrêmement chahutée. Les projets de loi qui étaient proposés en cours sont légèrement décalés. En tout cas, on ne sait pas réellement où on va. Le 7 juillet, il y a le premier tour du scrutin pour les élections législatives. Après, le raz-de-marée des élections européennes. Comment vous envisagez la présence de la FNAIM, le monde du logement pour les Français qui ont plébiscité l'accès à la propriété, 87% d'entre eux, je rappelle, ainsi que la maison individuelle, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Comment vous voyez le court terme, même si on sait que vous ne faites pas de politique directement, mais ne serait-ce qu'au niveau de la corporation et des métiers que vous représentez.
Alors, dans mon intervention tout à l'heure, je rappelais qu'il y a juste une année, je rendais compte des travaux du CNR qui n'avaient débouché sur aucune proposition. Aucune solution pragmatique, pourtant forte de 200 propositions issues, je dirais, de l'ensemble tissu associatif et syndicats et autres. Une année plus tard, nous sommes dans une situation pire qu'il y a 12 mois, et notamment avec une instabilité que notre pays n'a jamais connue, instabilité politique. On ne peut pas présager ce qui va se passer au lendemain du deuxième tour, mais je crains fort que nous n'ayons pas de majorité à l'Assemblée nationale et qui va empêcher justement de gouverner. Alors on pourrait imaginer des lois transpartisanes, j'y crois pas beaucoup parce que c'est très long à mettre en œuvre, on sait ce que c'est. Des lois proposées par le gouvernement, je dirais un Premier ministre, on ne sait pas qui il sera, dégager une majorité va être très compliqué. Donc je crois plutôt que la réaction au lendemain le 8 juillet, je crois que tout l'écosystème de l'immobilier, de la construction, de l'économie immobilière va devoir se mobiliser pour afficher des forces en présence. Mais quand je parle des forces en présence, c'est une force, je dirais, beaucoup plus large que l'Alliance pour le logement. C'est une force, je dirais, consensuelle, afin de démontrer l'intérêt général, parce que je dirais que le logement ne pourra pas être la variable d'ajustement et souffrir du désordre politique de ce pays. S'il n'y a pas de majorité pour gouverner, il n'y aura pas de loi Or, il faut présenter des lois. Et je crois plus à un collège de techniciens pour porter des propositions adaptées à la situation et trouver un consensus là-dessus. Mais je ne crois nullement à une force politique qui se dégage pour gouverner demain.
On le voit, les territoires, en quelque sorte, ont signé ou ont sifflé la fin de la récréation, les territoires, la France des oubliés, la France des déserts médicaux, dans lequel il y a de grosses difficultés à trouver un boulot, des personnes qui vont de plus en plus loin parce qu'ils ont du mal à se loger. Vous qui êtes sur la périphérie de Nantes, Jérôme de Champsavin, comment vous le voyez d'un point de vue territorial sur le terrain? Est-ce que vous sentez finalement cette population, ces classes moyennes, qui vivent une relégation, qui n'ont plus accès à la propriété parce que les taux d'intérêt ont flambé, parce que les coûts des matières premières a fait en sorte que les opérations de promotion ne sortent pas, ne sortent plus? Comment vous le vivez, vous, dans votre région? Je poserai d'ailleurs la question pour chacun dans votre région, comment vous le percevez avec les adhérents FNIM que vous soutenez depuis plusieurs années?
Alors merci Olivier de nous convier à cette belle Assemblée Générale du Grand Paris. C'est toute la fédération derrière le Grand Paris. Et dans cette Assemblée Générale, je pense que tous les adhérents de la Fédération en territoire se retrouveront. On parlait d'union. La question dans les territoires, elle se pose, je pense, pour chacun d'entre nous. La grande difficulté que l'on vit, c'est cette absence de politique du logement. Quand préalablement, à la question posée, vous ne faites pas de politique. Si, on fait de la politique, Sylvain. Notre politique, c'est la seule politique qui soit la bonne aujourd'hui. C'est la politique du logement. Un an et demi de mandat, Loïc Quentin à la présidence de la Fédération, c'est déjà trois ministres. Heureusement, nous n'avons qu'un seul président de la Fédération, il est toujours là, il est encore là pour la fin de son mandat. Et en cinq années de mandat, on peut construire, on peut avancer, on peut pousser nos idées. Et je crois que la vraie défiance que nous avons aujourd'hui vis-à-vis de nos gouvernants, nos futurs gouvernants, c'est d'accompagner nos propositions qui, à l'heure actuelle, commencent à être entendues, ne le sont plus. Il va falloir y revenir. Et c'est le seul combat qu'on peut mener aujourd'hui qui soit intelligent pour sortir les territoires de cette difficulté, c'est de pouvoir pousser nos idées auprès de la nouvelle majorité, si tant est qu'il y ait une nouvelle majorité.
Comment vivent les Nantais cette situation?
Je crois qu'ils le vivent comme tous les Français. Ils le vivent difficilement. L'article, la première page de Ouest-France aujourd'hui, c'est les résultats des baccalauréats, c'est la difficulté des étudiants, comme tous les ans, à trouver un logement. Ils vont avoir encore plus de mal. Donc on revient sur des unes de presse qui, finalement, n'ont toujours pas trouvé de solution. Donc peut-être qu'enfin, les nouveaux gouvernants vont intégrer le logement comme étant la priorité de leur politique. On sait bien que quand le bâtiment tout va, le logement fait partie, évidemment, de cette réussite d'un succès politique, aujourd'hui encore oublié.
Merci Jérôme de Champsavin. William Siksik, Cyril Messica, vous présidez la chambre du 06, une très grosse chambre. Combien d'adhérents sur le 06?
On est 650, la première chambre départementale de France.
Voilà, deuxième,
ça, première chambre après Paris. Première chambre départementale de France. Oui, oui. Paris, c'est le Grand Paris, mais si on parle simplement...
Monsieur a beaucoup d'humour.
Voilà.
Monsieur a beaucoup d'humour.
Donc c'est important, une chambre qui est dynamique, et un marché qui se porte plutôt bien. On a eu une baisse des volumes qui a été un peu moins importante qu'ailleurs. Si je reprends l'expression de notre président fédéral, c'est l'exception insolente du 06, avec des prix qui ne baissent pas et qui sont stables, plus de 2% là.
À quoi vous attribuez, Cyril, la vitalité de l'attractivité de votre territoire?
On est surtout, nous, un territoire qui attire les touristes, mais qui n'attire plus les actifs. Donc c'est toute la problématique qu'on a, nous, sur notre territoire, la Côte d'Azur, tout le monde en parle, et tout le monde veut venir habiter sur la Côte d'Azur. Pour autant, les entreprises, 9 entreprises sur 10, peinent à recruter, parce qu'aujourd'hui, on a un maillage des transports qui est ridicule et qui ne permet pas à une personne de venir de travailler à Nice et d'habiter en Antibes ou vice-versa. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc
bien
aujourd'hui,
sûr.
Explosion des plateformes de location saisonnière. On en a déjà beaucoup parlé, des alimentations du parc locatif traditionnel. C'est notre principale problématique.
Et les aménagements de la ZAC de Sophia Antipolis, avec le grand projet justement de désenclaver et de donner à la ZAC donc la zone d'activité pour faire venir des entreprises, est-ce que ça a un effet positif ou le logement reste toujours aussi compliqué?
C'est un problème
aussi,
de mobilité,
compliqué.
En fait. C'est ce que disait Cyril, on a un vrai problème de mobilité sur la Côte d'Azur.
Oui.
Et c'est vrai que nos salariés, c'est ce qu'ils disaient, d'aller travailler à Antibes, à Menton... Tout est embouteillé, c'est pas un tramway qui va régler la problématique.
Un avantage, un inconvénient, c'est l'aéroport de Nice.
Bien sûr. Oui, qui est dans la ville.
Qui est exceptionnel, voilà. Pour 1,50€, vous allez de l'aéroport au centre de Nice, par le tramway.
C'est clair.
Donc aujourd'hui, ça crée une explosion et un flux migratoire assez
important.
Cette
clientèle des grandes métropoles, okay, dont nos amis parisiens, arrivent le jeudi, repartent le lundi. Il y a eu un effet télétravail qui font qu'effectivement, pour nos actifs, c'est très dur de se loger et on a très peu de congés en matière locative. Et c'est pour ça qu'il faut donner un vrai statut fiscal aux bailleurs privés, une vraie incitation.
Et sur le... on continue à construire ? Est-ce qu'on construit encore ?
Alors, notre problématique aussi, c'est la géologie. Si vous regardez bien notre territoire, on a une bande littorale où vous pouvez encore un petit peu construire. On a pas mal de dents creuses, encore, bien heureusement. Mais ensuite, vous avez les Alpes-Maritimes. C'est beaucoup plus difficile à construire. Donc, des coûts de construction plus élevés. Et aujourd'hui, lorsque vous construisez, vous avez une résidence en face de vous qui vient de se construire. Nous, on a une servitude de vue qui est la mer. Et là aussi, grosse difficulté.
Sans parler de la ZAN,
zéro artificialisation nette, dont d'ailleurs, je vais compléter la question, sur la population donc, du 06, comment perçoivent-ils la campagne des législatives qui est inédite en soi? Vous savez que c'est la première fois que ça arrive depuis 1958. Hein. Il y a eu 6 décrets de dissolution, mais cette campagne, elle est unique en son genre depuis l'attribution des pleins pouvoirs au général de Gaulle en 1958. Comment y réagissent les adhérents? Sur le vote, qui a vraiment rebattu les cartes. Ça a été un raz-de-marée pour les élections européennes.
Vous savez, nous, nos adhérents, ils sont focus sur les propositions qu'a fait notre président fédéral. Focus sur ce que Cyril, qui est président de l'Observatoire de l'immobilier et de l'habitation, sur des propositions qu'on a reprises aussi de la FNIM, parce qu'il n'y a pas que le neuf, il n'y a pas que les promoteurs, il n'y a pas, bien sûr, qui souffrent, il y a aussi des solutions à trouver pour le parc locatif privé. Et aujourd'hui, tout est bloqué. Nous, on est arrivé à stopper un encadrement des loyers au mois de décembre, juste avant Noël.
Sur Nice.
Qui a été accepté très rapidement. Ouais.
Christian Estrosi, t'es plutôt pour ou contre ?
C'est pas le problème, en fait. Christian Estrosi, comme tout politique, il a des administrés, il doit prendre des décisions. On lui dit, ça va être un bon signal, l'encadrement des loyers. Et lui, il se retourne vers nous en nous disant, vous, professionnels de l'immobilier, amenez-moi des armes pour me dire que cet encadrement des loyers ne va pas être...
Encadrement des loyers, bien. Donc explosion, Cyril. Une fois de plus, du Airbnb. Donc,
okay. Pas le citer. Là aussi, vous êtes au taquet. On ne trouve plus de petites locations de 30 mètres carrés.
C'est très difficile, mais pour autant, on ne peut pas opposer la location saisonnière. Bien sûr. À la location à l'année. Mais aujourd'hui, le bailleur privé, c'est le mauvais élève, parce qu'il a le malheur de louer à l'année.
C'est un petit peu le logement étudiant, ils étaient 17% l'an dernier, en 2023. Sur votre région, apparemment, on s'acheminerait vers une tension de logement de l'ordre de 22% en 2024. Ça ne vous étonne pas ?
Non, ça ne vous étonne pas. Naturel. Et pourtant, on a des maires qui ont pris leurs responsabilités en entreprenant une rénovation urbaine. Christian Estrosi l'a entrepris. Ce qui permet aujourd'hui à certains secteurs qui n'étaient pas prisés à l'époque de le devenir aujourd'hui.
Bien sûr. Alors, on va continuer le tour de France. On va aller dans le sud-ouest. Élodie Mire, alors vous êtes dans un territoire qui est un territoire dans lequel on peut dire qu'il y a des zones détendues, il y a des zones ultra tendues. Donc c'est un vrai paradoxe. Là où vous habitez, on va dire que c'est une zone plutôt détendue. Même d'ailleurs, quoique, ça devient de plus en plus attractif. Alors vous avez une particularité, c'est que votre territoire a subi des remous assez violents. On se rappelle notamment les tentatives de plasticage de promoteurs à Bayonne.
Pas de promoteurs, d'agences immobilières.
Et de menaces d'agences immobilières, absolument. Ça a été très, très compliqué. Alors carrément, la mairie de Biarritz, la mairie de Bayonne, Anglette, Cambo-les-Bains ont carrément pris des mesures extrêmement drastiques. Comment vous le vivez, vous, premièrement, sur l'attractivité du marché immobilier, parce que vous êtes sur un marché très attractif. On veut tous aller vivre chez vous, on va tous aller vivre chez Cyril et William, ça va être sympa. on va débarquer demain. Non, mais concrètement, ce sont des territoires qui sont alternatifs.
Qui est extrêmement attractif. La problématique du logement s'exprime avec une acuité toute particulière en termes justement de. On a les mêmes problématiques d'Airbnb à Nice.
Mais est-ce que l'Airbnb aspire réellement toute l'offre locative des petites surfaces ?
Alors,
on peut comprendre
non,
les propriétaires
mais quand on a en fait une stigmatisation du Airbnb, une volonté de mettre fin à cette hémorragie, il ne faut pas non plus... Les professionnels du secteur sont quand même conscients qu'à un moment donné, effectivement, les locaux n'arrivent plus à se loger et que c'est allé trop loin en termes de volume d'Airbnb. Il y a quasiment 50% de plus de biens en Airbnb aujourd'hui. On avait jusqu'à 16 000 annonces de biens en Airbnb, donc trop important.
Prenez Bayonne, en septembre, le nombre d'annonces en moins cette année, c'est 60% de moins.
Oui, alors c'est un vrai faux problème parce qu'en fait, on est passé du meublé de tourisme au meublé plus classique. Donc, on pérennise quand même pas le toit sur la tête de nos concitoyens. On règle le problème en logeant peut-être et en réglant la problématique des étudiants. Et c'est très bien, il faut la régler aussi. Ce n'est pas suffisant. Bien aujourd'hui, sûr. Le calcul qui a été fait par la communauté de communes qui a pris un arrêté, en fait, qui a pris un règlement de la communauté de communes, qui est une compensation, qui interdit en fait l'allocation d'un Airbnb si on ne compense pas. Mais quand on compense, on ne compense pas. Par exemple, j'ai un T2, je ne vais pas compenser par un autre T2. Je vais être tenu de trouver un local dont je vais changer la destination et que je vais transformer en T2. Aujourd'hui, on a le recul sur cette compensation.
Ça fait un an.
On a essayé de cartographier les biens qui pouvaient permettre cette compensation. Il y a 16 000 annonces à Airbnb. Il y a 400 biens qui pourraient permettre cette compensation. Sur un an, il y a eu 2 compensations qui ont été réalisées. Donc clairement, c'est une interdiction de louer qui ne dit pas son nom. Nous, on a entamé en fait avec aujourd'hui les collectivités une discussion. On s'est dit, il ne faut pas s'opposer, on va essayer de bâtir ensemble. Aujourd'hui, la compensation, on la comprend. C'était une façon d'envoyer un signal fort, comme l'a fait Christian Estrosi, tu le disais tout à l'heure, d'envoyer un signal fort aux administrés en disant, oui, j'ai compris, on a compris, il faut vous accompagner dans ce parcours résidentiel, vous êtes en souffrance. En revanche, il faut limiter ce curseur qui est allé trop loin, pas aller jusqu'à l'interdiction. Une compensation qui serait un T2 contre un autre T2 serait déjà beaucoup plus entendable par les bailleurs privés. Aujourd'hui, on avait avancé sur un point très important avec le projet de loi d'Annaïg Le Meur sur les meublés de tourisme qui mettait un projet de loi transpartisan. Voilà, on a avancé là-dessus.
Bien sûr.
Sur 2 points d'ailleurs, la fiscalité qui n'avait pas lieu d'être aussi attractive.
Bien sûr.
On aurait peut-être besoin à un moment donné de renverser le paradigme et d'avoir une fiscalité beaucoup plus attractive pour ceux qui vont louer à l'année.
C'est encore le
bailleur privé. On y retourne.
C'est là qu'on comprend les propriétaires, bien évidemment, qui ont été très mis à mal par les politiques publiques depuis plusieurs années, parce qu'aujourd'hui, il y a carrément... C'est une première, depuis 1984, loi Emmanuelli, c'est une première. Il n'y a pas de booster fiscal qui remplacera le dispositif Pinel, qui a été un formidable dispositif,
Pour finir sur mon territoire, il y a une autre problématique qui va être plus identitaire, qui est propre au Pays Basque aussi. Donc on essaie, nous, de travailler avec les acteurs locaux. On s'est associé, un membre de la FNAIM a pris la présidence de l'Observatoire des loyers. On travaille sur le plafonnement. On essaie de le faire de manière raisonnée.
Combien d'adhérents FNAIM sur votre région?
On a 280 agences.
Comment a été perçue la campagne des Européennes? Alors j'ai les statistiques dans votre région, mais vous les connaissez aussi bien que moi, on ne va pas les égrener. Le RN est arrivé premier dans les plus grandes villes.
Et ça, c'est
un phénomène, ainsi que sur les territoires des petites villes de 30 000 habitants dans votre région, ils sont arrivés à plus de 70% alors que ce n'est pas forcément des zones extrêmement ciblées. Comment ça se vit dans votre région, en sachant qu'à l'instar de vos amis Cyril et William, vous êtes aussi sur un territoire finalement très attractif, quand même. On a envie de vivre là-bas.
On sent cette colère des locaux.
D'accord.
On sent en fait
nos adhérents
ont peur en fait parce qu'il n'y a pas de lisibilité, mais là je pense que c'est général en France. On n'avait déjà pas beaucoup de prospectives en ce qui concerne la politique du logement. Là on en a encore moins et c'est pour ça que le syndicat va prendre aussi toute sa puissance et toute sa force dans le combat qui a à mettre en œuvre pour protéger nos adhérents, pour protéger nos plus beaux métiers qui sont quand même
merci,
de loger les gens.
Merci Élodie. Vincent Poitvin, dans votre région, comment ça se passe? Combien d'adhérents? Et surtout, comment est perçue effectivement cette campagne où on a la France des oubliés qui a manifesté son désir de ne plus rester silencieuse?
Alors donc nous, dans notre région sur Reims, nous avons 120 adhérents. Nous avons un marché qui s'était établi sur le fait de la proximité de Paris, où on avait énormément d'investisseurs parisiens. Et aujourd'hui, cette clientèle-là, on ne l'a plus. Les investisseurs ne sont plus là, ne sont plus au rendez-vous.
Si on devait estimer la chute en volume, justement, sur votre, avec le fait que vous soyez en câblure, moins d'une heure en TGV de Paris.
Transaction, on est à moins 30.
C'est 30%. Ouais. C'est
tout à fait
catastrophique.
Ouais.
Comment vivent les adhérents aujourd'hui la situation politique ?
Ben, ils sont comme nous, ils sont dans l'attente, mais le gros souci, c'est que ça va être un choix par défaut, quoi. Donc l'incertitude, les promesses non tenues, voilà.
En fait, est-ce qu'ils ont cette impression, comme beaucoup de Français, d'être placés dans une équation, c'est la peste ou le choléra, par exemple, de choses comme ça, et que l'alternative, ils n'en voient pas vraiment. C'est ça, en
absolument,
fait.
Absolument, c'est
d'accord.
Ça.
Tous les entrepreneurs aujourd'hui sont 55% à dire exactement la même chose. Qu'on leur impose un choix binaire, finalement, de choisir entre deux extrêmes, dont bon, rien ne le sortira choix, peut-être. Comment le marché évolue d'un point de vue sur les propriétaires ? Est-ce que vous subissez, ou sur la location saisonnière, justement, sur les problématiques des petites surfaces dont on ne trouve plus un bail traditionnel à moins de 40 mètres carrés dans les cœurs de ville, en sachant que Reims reste quand même une ville à la fois attractive, pas trop chère, mais quand même avec un niveau de type CSP, avec un PIB par habitant qui est quand même extrêmement intéressant, on peut le dire.
Reims, on a un
c'est
marché
pas une ville pauvre.
Il y a 47% de logements sociaux. Donc,
Intramuros.
Oui, donc il reste effectivement plus assez pour le logement privé. Donc on a ça à ce niveau-là, il y a le phénomène Airbnb, mais on n'est pas attaqué fortement comme peuvent l'être les régions littorales, comme mes amis à ma gauche.
Merci Vincent Poitvin. Sébastien Benet, vous êtes sur une chambre, combien d'adhérents à Toulouse ?
250
sur la Haute-Garonne. Une chambre extrêmement dynamique. Hein, j'ai eu le plaisir d'animer des assemblées générales chez vous. Même question. Alors là, Toulouse, pour le coup, on a un vrai sujet, puisque vous êtes une des villes de France qui a le plus fort taux de démographie positive sur les 15 dernières années. Vous gagnez entre 12 et 15 000 habitants chaque année. Il y a un vrai sujet autour du logement, un vrai sujet. Les chantiers sont à l'arrêt, les permis de construire se signent de moins en moins. Et pourtant, vous avez un afflux démographique qui, aujourd'hui, est un défi de tous les jours pour trouver un logement.
Effectivement, c'est une chance d'habiter ce territoire. Au même titre que c'est une chance d'être dans cette fédération. Bonsoir Sylvain et merci. Donc à Olivier de nous accueillir et à Loïc de nous réunir. Parce qu'en fait, on est une fédération de chambres et c'est ce qu'on voit là aujourd'hui, une diversité des territoires. Mais aujourd'hui, quand on vient à Paris, c'est pour justement remonter toutes ces réalités et faire en tout cas cause commune et être au-delà de ces singularités territoriales dont on peut constater qu'elles sont parfois partagées, parfois pas également. Donc effectivement, nous, on a une chance, on a une balance positive. Donc visiblement, on a des flux de population qui viennent vers nos régions du Sud, parce qu'on est quand même du Sud, les quelques-uns à être présentés, Vincent pour la Champagne. Nantes a également, une dynamique très positive. Mais là, on parle des métropoles. Et en Occitanie, il y a deux métropoles très dynamiques, Montpellier-Toulouse, qui vivent une réalité, et des territoires, ceux qui sont évoqués depuis tout à l'heure, et qui entendent des murmures politiques différents de ce que nous allons proposer en tant que syndicat et en tant que force professionnelle. Nous, on accompagne depuis 3 ans, on alerte, et tous ceux qui sont autour de moi ici l'ont dit à maintes reprises, et notamment sur vos ondes, sur cette problème conjoncturel auquel se sont... agglomérer des problèmes structurels et aujourd'hui un climat politique qui est de nature à effectivement égrener la confiance. Et or, on est sur un marché, l'immobilier, du temps long où il y a nécessairement besoin de confiance et nous, on est là pour distiller cette confiance, regarder un petit peu au-delà de l'instant, en fait, puisque les projets qu'on construit, c'est des projets de vie, que ce soit dans le parcours résidentiel ou dans l'investissement. Donc, beaucoup de problématiques ont été remontées. Nous, en territoire, on a la chance d'avoir du monde, mais on ne construit plus. C'était la ville des promoteurs, Toulouse, notamment avec beaucoup d'appui sur les systèmes de défiscalisation qui ont été des incitations et non pas une drogue fiscale, comme a pu dire un certain ministre. Une incitation qui a permis de tenir un marché.
Et qui a permis de produire du logement pour les Français, pour les loger. Voilà.
Exactement.
C'est très simple. Hein.
Un, un petit bout de retraite pour certains, parce qu'on n'était pas sur des rentiers, on était simplement sur des gens qui ont voulu investir dans la pierre. Et je pense que la FNAIM, dans ce contexte, et c'est un autre membre du Conseil qui n'est pas là, qui disait la semaine dernière encore, quand on travaillait tous ensemble, qu'on était là pour éclairer un petit peu dans cette zone d'ombre et dans ce moment-là. Donc on ne va pas rester focus sur le présent, puisque chacun prendra ses responsabilités, on les a tous pris ici. On portera par contre, comme on a porté, des idées pour solutionner ces problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui, par contre.
Merci Sébastien Benet, Olivier, Loïc. On le voit bien, c'est une première à la radio que tout le BE soit quasiment. Vous êtes tous au complet, je crois. Au début.
Non, il en manque.
Il en manque. Et tous les territoires, à une assemblée générale du Grand Paris, c'est un signe d'unité. Bravo, c'est un vrai signe d'unité. Dieu sait que ce n'est pas neutre, c'est pas anodin l'unité en ce moment, surtout dans une corporation qui a été sévèrement échaudée. L'Olivier Principal, alors clairement. On ne fait pas de politique partisane, puisque non. Vous êtes une corporation. Oui. On a bien compris, mais on n'élude pas la réalité. Oui. Vous avez été malmené par des politiques publiques depuis 7 ans maintenant. On a entendu Bruno Le Maire, pas plus tard qu'hier, à la salle Gaveau, faire un grand mea culpa devant les patrons. C'est bien, c'est très bien. Ça lui a valu une volée de boucliers d'articles dans la presse, bien évidemment. Et j'ai égrené aussi les programmes de tous les candidats. Alors, c'est open bar, c'est franchise sur les droits de mutation, réduction de la TVA sur les chantiers. Et on a tous l'impression que, et Renaissance d'ailleurs, le mouvement présidentiel, ils n'y vont pas de main morte non plus. On a l'impression, ils se réveillent au dernier moment. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous voyez ça? Ça vous fait.
Moi, ça me fait pas marrer.
Ça vous plaît,
Sylvain? Non, la difficulté.
Vous les trouvez très triste.
La difficulté, c'est qu'on a, d'un côté un bilan de l'équipe sortante qui est quand même pas très glorieux. Et on a des propositions qui viennent de partout, qui sont toutes assez chaotiques à envisager, voilà, fantaisiste, merci. Donc en réalité, ça n'augure pas de choses particulièrement bonnes, donc du coup c'est assez inquiétant de manière générale, parce que si on n'a pas une unité et du pragmatisme sur des propositions logiques dans l'intérêt de tous, on ne réglera pas les problèmes. Alors, je voulais juste faire un petit focus là-dessus, parce que, bon, c'est vrai que la politique, on en parle beaucoup en ce moment, mais moi ce qui m'intéresse, c'est... c'est cette table qu'on a aujourd'hui, parce qu'effectivement, on a des territoires qui sont différents, mais on a des contraintes qui sont identiques. On parlait de la tension du marché locatif avec la location, et la FNAIM, elle est là justement aussi pour permettre une politique, l'adaptation d'une politique qui respecte les territoires, qui respecte les besoins locaux. On a des synergies avec la chambre FNAIM 06 Côte d'Azur. On a des marchés ultra tendus ensemble. On a des problématiques de prix ensemble. Donc, du coup, on mène des combats ensemble. Quand on parle de location saisonnière, on a d'autres zones touristiques qui sont impactées aussi. Et du coup, la superbe chose qu'on a dans cette FNAIM, c'est que tous ensemble, autour de Loïc Quentin, dans le conseil d'administration, on crée ces synergies et ces actions communes sur toutes les spécificités de nos marchés. Et c'est là qu'on arrive à sortir quelque chose qui permet à Loïc de défendre une politique juste, équitable, qui ne laisse personne sur le bord du trottoir. Et c'est là-dessus que la FNAIM continuera à se battre.
Merci. Loïc Quentin, justement, égrenons les programmes qui ont été dits. Je vais citer quelques à la volée. Jordan Bardella a annoncé à 3 reprises, notamment sur son dernier débat, qu'il allait détricoter le calendrier sur la rénovation énergétique pour le rendre finalement inopposable, c'est-à-dire plus d'opposabilité sur le délai, vous l'avez entendu comme nous, pour inciter les propriétaires bailleurs à dire finalement ça ne sert à rien de contraindre les propriétaires bailleurs dans un calendrier non tenable, d'ailleurs vous l'avez dit à plusieurs reprises, toutes les organisations l'ont dit, et c'est une des premières choses auxquelles il va s'atteler. Et il a évoqué les droits de succession, bien évidemment, à hauteur d'un certain chiffre, avec une exonération des droits de succession, une exonération partielle des droits de mutation et la réduction de la TVA. Comment vous percevez ces propositions dont on a l'impression, pour le PS par exemple et les FID, Nouveau Front Populaire, une surenchère de propositions? Et j'ajoute là-dessus que le Premier ministre Attal, Gabriel Attal, a emboîté le pas sur le même type de propositions.
Alors, je dirais qu'il y a une surenchère qui vient, je dirais, tous les partis, toutes les forces en présence, aussi bien à l'extrême gauche que chez le Rassemblement national. Dire on va suspendre la naissance énergétique en 2025 et 2028, oui, c'est séduisant, mais je dirais que c'est insuffisant, parce que la rénovation énergétique est au cœur des politiques publiques. Et on ne peut pas dire on lève l'indécence énergétique sans envoyer un signal indispensable à la rénovation énergétique que nous, syndics de copropriété, nous, dans nos cabinets, nous sommes tenus d'accompagner. Il y a une norme européenne, une directive européenne, et il faut l'appliquer. Donc j'appelle ça un peu du populisme, mais ça manque un peu de pragmatisme et de réalisme sur l'application de la mesure. Il faut être très prudent.
Pourtant, vous étiez contre le...
Ah non, mais nous, on dit le calendrier n'est pas tenable parce que le calendrier n'est pas tenable pour assumer la rénovation énergétique de nos copropriétés parce que le temps de la copropriété n'est pas le temps de la commande publique et nos processus de décision sont beaucoup plus long que l'indécence qui pèse au 1er janvier 2025. On avait obtenu quand même une mesure d'allègement de la part du gouvernement qui nous avait entendu au travers d'un amendement sur les lois sur les copropriétés dégradées permettant de préciser que l'indécence énergétique ne trouverait s'appliquer qu'à compter de la location des logements loués à compter du 1er janvier 2025. Donc voilà. Donc je dirais à un correctif qui, s'il n'est pas accompagné d'un éclairage sur la rénovation énergétique, est un dispositif incomplet. C'est de la séduction, mais je dirais que c'est totalement insuffisant. Voilà. Ça, voilà le premier point. Sur les autres programmes, on va commencer à raser gratis.
Les droits de mutation, à hauteur de 150 000 euros.
Oui, mais tout ça, c'est exactement la même chose.
Et la réduction de la TVA.
C'est une mesure qui n'a pas été chiffrée. À l'FNI, on l'a chiffrée, c'est 1,5 milliard d'euros.
Exact.
Donc, le problème, c'est que dès qu'on a une politique keynésienne de redistribution d'un avantage consenti à un acquéreur, on reporte cet avantage sur le prix du vendeur, surtout quand on est un marché tendu et un marché de négociation. Et ça, c'est toujours le danger, que le bénéfice ne revienne pas entre les mains de l'acquéreur.
C'est toujours un difficulté. Pour vous, c'est pas forcément une bonne mesure.
Mais aujourd'hui, je pense que le marché de l'existant est en train de se corriger lui-même. Et il ne faut surtout pas casser cette dynamique de correction. Par contre, moi, j'ai une solidarité pour un secteur qui souffre, qui est le secteur du neuf, qui est à l'agonie, et qui nécessite, parce que personne et aucun candidat ne parle du neuf, qui, lui, ne peut pas s'en sortir. Là, on est en train de perdre et d'effacer du parc de logements français 250 000 logements, parce que ce sont des permis qui ne sont pas déposés pour demain, et quand on connaît le délai de réalisation d'une opération, c'est, je dirais, on peut anticiper les difficultés qui sont à venir. Et je crois qu'aucun candidat n'a parlé du neuf. Donc là, il y a un vrai, je dirais, s'il fallait consacrer 1,5 milliard, d'accord, on aurait pu les flécher vers le neuf. Je ne parle pas
d'un dispositif de... Et la baisse de la TVA, justement, sur le neuf.
La baisse de la TVA sur le neuf, elle peut être fléchée, oui, mais alors, je dirais, tout manque, toute nouvelle recette en moins. C'est appuyé sur notamment d'autres secteurs. C'est comme baisser aussi la TVA sur la consommation énergétique. Donc dans tous les cas, ce sont des recettes en moins sur le budget de l'État. Et aujourd'hui, je pense que Bruno Le Maire a maintenu son cap, même s'il fait l'objet de beaucoup de critiques. Il est extrêmement, je dirais, strict sur la gestion budgétaire. Aujourd'hui, la France fait partie des 5 pays qui ont été pointés par l'Europe avec une mauvaise note, et notamment pointé l'absence de maîtrise, je dirais, de défense budgétaire. Il faut faire attention. Nous, nous sommes économes sur les dispositions budgétaires. Nous n'avons fait que des propositions qui ne coûtent rien, au moins dans les médias.
Merci Loïc Quentin. Vous voulez commenter, Olivier Principal?
Non, je voulais remercier tout le monde. Je remercie tout le monde, en tout cas, d'être venu à cette Assemblée Générale. C'est toujours un plaisir d'avoir la France, hein, la France de la FNIM autour de moi. Donc voilà, merci Loïc d'avoir fait le déplacement avec ton équipe.
Ouais. Vous voyez, Sylvain, ce qui est important, c'est que le marché de l'immobilier, finalement, c'est un marché de territoire. Il y a une telle variété de territoires, de villes. Donc, on part entre Nice, entre Saint-Lary, le Pays Basque, entre Reims, entre Paris, entre Toulouse, entre Nantes. Je dirais qu'il y a une mosaïque de territoires qui montre la richesse. Comme quoi, la politique du logement, elle ne peut pas être pensée,
Est-ce que vous convenez que le séisme politique, que s'il y avait une vertu à ce qui s'est passé, c'est que cette France qu'on a un peu oubliée s'est manifestée. Est-ce que vous en convenez?
Nous, on a toujours manifesté, parce que comme nous sommes une fédération de chambres, nous, les territoires, nous sommes proches. Et nous savons remonter, je dirais, notre constat. Mais je pense que la politique du logement, demain, on va en retirer, je pense, un enseignement. Ça ne peut plus être, je dirais, l'émanation d'une force politique qui est dans la surenchère en fonction des opportunités et des postes, finalement, où ils peuvent être élus, en fonction d'échéances électorales. Mais la politique du logement, elle doit se consacrer et se penser sur du long terme. Du moins, c'est à quoi va s'attacher notre fédération dans les mois à venir, et apporter beaucoup de résilience et de la résistance le moment venu.
Merci beaucoup, Olivier Principal. Loïc Quentin et Olivier Principal. Je rappelle que vous êtes président de l'UNIS du Grand Paris. Merci.
Non. De la FNIM. Voilà.
Oh là là. Alors, il y a eu un transfert. Là.
Pardon. Mais finalement, si on est dans l'Union, effectivement, c'est un lapsus qui n'est pas révélateur. Je rappelle que président de la FNAIM du Grand Paris. Je voudrais qu'on remercie Cyril Messica et William Siksik pour la première. Merci Elodie Mire, merci Vincent Poitvin, merci Sébastien Benet. Un grand merci à Jérôme de Champsavin et à vous Loïc Quentin. On est bien à la FNAIM. Merci à toutes et à tous. Et ce soir d'ailleurs, vous avez une belle soirée qui est prévue, Olivier Principal. Ouais. Tous les adhérents vont venir faire la fête avec
il y a 500 bouteilles. C'est une bonne soirée. Voilà.
Merci. On se retrouve dans quelques instants.
Assemblée générale de la FNAIM Grand Paris sur Radio Immo.